Radio Madjul.
La radio du collège Marthe du Perron.
À Langogne. Sur 48 FM.
Bienvenue à tous pour cette troisième et dernière émission consacrée au métier de l'art. Après avoir exploré les arts visuels dans notre première émission, puis plongé dans l'univers du spectacle, nous allons aujourd'hui nous intéresser à ceux qui font travailler notre imagination.
Oui, ces métiers où tout commence par une idée, un rêve, une histoire, avant de devenir un livre, un film, une œuvre qui nous transporte ailleurs.
C'est comme de la magie. On imagine et paf ! Ça devient un roman, un scénario, un film.
Enfin, pas tout à fait. Derrière chaque histoire, il y a des heures d'écriture, une réflexion, des constructions des personnages et d'intrigues. Ce sont des métiers exigeants où la créativité et la rigueur vont de pair.
Et si vous avez manqué nos précédentes émissions sur les arts visuels et le spectacle vivant, elles sont disponibles en podcast sur le site de 48FM et sur l'ENT du collège Marthe du Perron.
Ouais, comme ça, vous pouvez les écouter quand vous voulez.
Mais revenons à notre sujet du jour. Pour mieux comprendre ces métiers de l'imaginaire, nous allons rencontrer deux professionnels qui consacrent leur vie à raconter des histoires. Un auteur de romans policiers et un réalisateur de films.
Moi j'adore les histoires policières, avec du suspense, des enquêtes.
Eh bien ça tombe bien, car notre premier invité est un écrivain spécialisé dans ce genre. Il va nous expliquer comment il construit ses intrigues, où il puise son inspiration, et comment on devient auteur professionnel.
Alors, ouvrez bien vos oreilles, car l'enquête commence tout de suite.
L'interview.
Sur Radio Madjul.
Vous êtes avec Wayne. Pour démarrer nos interviews sur les métiers liés aux arts de l'imaginaire, nous recevons aujourd'hui Nico Taquian, auteur de romans. Bonjour Nico.
Salut Wayne.
Tout d'abord, merci de nous accorder de votre temps aujourd'hui. J'imagine qu'avec la sortie de votre dernier roman, La Menace chez Kalman Levy, le 5 mars dernier, votre emploi du temps doit être chargé.
Ben ouais, il est chargé là, tu vois. Demain matin à 8h, je suis dans un train pour aller dans un immense salon qui s'appelle Quai du Polar à Lyon. Il y aura tous les écrivains de polar.
Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a donné envie de devenir écrivain ? Était-ce une vocation depuis toujours ou un chemin qui s'est construit au fil du temps ?
Alors, moi, à la base, j'avais aucun rapport avec ça, puisque comme certains enfants à mon époque et encore aujourd'hui, j'étais dyslexique. Donc, ça veut dire que pour moi, l'école, le français, l'écriture, la lecture, c'était vraiment une grosse galère. Et puis, un jour, en fait, je me suis retrouvé avec des amis, on cherchait un truc à faire, on s'est mis à faire des jeux de rôle. Et il se trouve que c'est moi qui devais être le maître de jeu, donc c'est moi qui devais acheter le jeu. Je me suis rendu compte que c'était un énorme bouquin qu'il fallait lire, donc ça m'a bien fait peur. Et puis, surtout à la fin de ce livre, il y avait ce qu'on appelle l'annexe. Et l'annexe, c'était une liste de livres qu'il fallait avoir lus pour pouvoir inventer des univers imaginaires. Et comme mes copains me mettaient la pression, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de m'y mettre quand même. Et j'ai commencé à acheter un ou deux bouquins comme ça. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que j'adorais pas ce qu'on me faisait lire à l'école, mais par contre, j'adorais ces bouquins-là. Et j'ai commencé à lire, et c'est là que ça a vraiment commencé. Donc, j'ai été écrivain bien plus tard, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé, par la passion de raconter des histoires.
Quel a été votre parcours pour en arriver là ? Faut-il forcément suivre des études littéraires ou y a-t-il d'autres chemins pour devenir écrivain ?
Comme je te le disais, moi, je n'ai pas suivi d'études littéraires, puisque je ne suis pas littéraire. Moi, je suis juste quelqu'un qui aime raconter des histoires, et ça m'est venu donc par les jeux de rôle quand j'étais petit, mais aussi par les films. À l'époque, il y avait beaucoup moins de séries qu'aujourd'hui, et on voyait moins la télé qu'aujourd'hui aussi, mais on voyait des films. Et c'était vraiment ce qui m'influençait le plus. Donc, je n'ai pas fait du tout d'études dans ce sens-là, j'ai fait des études de droit. Donc, c'est pour te dire. Après, le droit, par exemple, c'est un peu des histoires aussi, parce que c'est des histoires de gens qui ont des problèmes, ce qu'on appelle des cas pratiques. Mais c'était déjà des histoires. Et après le droit, je n'ai pas fait de droit, je suis devenu journaliste. Par opportunité, parce que j'avais une place que je pouvais prendre. Donc, j'ai commencé un peu à écrire pour gagner ma vie de cette manière-là. Avant de finalement, à 22 ans, signer un contrat de BD, puisque j'ai fait beaucoup de BD avant d'être scénariste pour la télé, puis après romancier. Et j'ai commencé à raconter des histoires à partir de 22, 23 ans, à être publié, puis après ça s'est enchaîné. Donc ça veut dire que à la base, il faut absolument pas forcément avoir fait des études littéraires pour être écrivain. Par contre, il faut avoir envie vraiment de raconter des histoires.
Quand vous commencez un nouveau roman, comment travaillez-vous ? Avez-vous une méthode bien précise ou laissez-vous place à l'improvisation ?
Alors, il y a peu d'improvisation, en fait, hein, quand tu écris comme moi des thrillers, c'est-à-dire des histoires qui sont censées faire peur, surprendre et tout. C'est un genre qui est, entre guillemets, assez technique. Il faut quand même maîtriser ce genre, c'est-à-dire surprendre les gens, leur faire peur, tenir une tension, tout ça. C'est une technique. Donc, en fait, quand je dois préparer un nouveau roman, généralement, j'ai une méthode. Je commence par essayer de savoir où ça se passe. Après, je me documente sur le lieu. Après, je vais essayer de voir quels sont les personnages qui pourraient habiter dans ce lieu que j'ai choisi, histoire que les personnages ne sonnent pas faux après. Et une fois que j'ai tout ça, je commence à m'intéresser à l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu avec ces personnages ? Et à la fin de tout ça, je cherche la manière dont je vais raconter cette histoire, parce qu'il y a plein de manières de raconter les histoires. Et moi, je fais un bouquin par an, donc tous les ans, j'essaie de changer, en fait, de faire un nouveau roman qui est différent de l'autre. Donc à chaque fois, la manière dont je raconte l'histoire, ça change beaucoup les romans aussi. Et une fois que j'ai tout ça, ça me fait une espèce de grand ensemble où j'ai tous les éléments, de grand puzzle. Là, j'écris un plan. Qui est un peu l'histoire, je dirais, du chapitre 1 au chapitre 60. Et une fois que j'ai ce plan, là, je commence à écrire mon roman. Et après, là où ça devient vraiment libre, c'est que si jamais j'ai des idées qui arrivent en écrivant mon roman, bah, je les rentre dans mon plan. Et puis souvent, l'histoire que j'avais prévu d'écrire au début, ce n'est pas du tout l'histoire qui est dans le livre à la fin, parce que j'ai justement la possibilité de changer les choses, mais je peux changer les choses parce que je sais ce qui se passe et je sais qui sont mes personnages.
Votre dernier livre, La Menace, a reçu d'excellentes critiques. Je lis un extrait. Un roman engagé et parfaitement maîtrisé, dont certains sujets monstrueux abordés sont terriblement d'actualité. J'ai retrouvé la plume envoûtante et percutante de l'auteur qui nous manipule avec brio. Un thriller glaçant. Parmi tous les retours que vous recevez, lesquels comptent le plus pour vous ? Ceux des critiques littéraires, des lecteurs anonymes ou ceux de vos proches ? Et pourquoi ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense que ça a pu changer au fil du temps. Là, c'est mon 11e roman, donc c'est très différent. Quand tu sors ton premier roman, en fait, toutes les critiques, tu les prends un peu à cœur parce que tu te dis que les gens, s'ils n'ont pas aimé, c'est un drame, et s'ils ont adoré, c'est génial. Puis alors, au fur et à mesure que tu sors des romans, c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a toujours des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Tu peux rien y faire, c'est normal. Je dirais même que si ce n'était pas le cas, ça ferait un peu peur, en fait. Si tout le monde adorait ce que je fais, que personne n'y trouvait rien à redire, ça serait quand même un peu plus... Ça serait très stressant, en fait. Donc, après, clairement, je fais lire à une seule personne parmi mes proches ce que j'écris, avant publication, avant que le roman existe. Donc c'est très important pour moi, c'est ma femme. C'est très important pour moi que ça lui plaise au moins un minimum. Si je pense qu'elle n'aimait pas du tout le roman, j'essaierai de comprendre pourquoi, mais ça pourrait me poser un problème, vraiment. Après, j'ai mon éditrice, qui est donc la personne qui va lire le roman chez l'éditeur. Elle aussi, il faut mieux qu'elle aime, parce que si elle n'aime pas, elle ne publie pas le roman. Donc il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles j'ai envie qu'elle aime. Effectivement, les critiques, j'ai envie de dire, c'est important parce que dans ce métier, il faut avoir de bons articles et tout, donc c'est bien que les critiques aiment. Maintenant, les critiques, souvent, ils aiment un certain genre de roman, et si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas le genre qu'ils aiment, ils n'aiment pas. Donc, soit ils ne parlent pas de ton livre, soit ils parlent de ton livre de manière peu élogieuse. Donc, j'ai envie de dire, les critiques, à la limite, avant même de sortir mon roman, je sais s'ils vont aimer ou pas, parce que je sais si c'est le genre de roman qu'ils aiment ou pas. Et après, surtout, il y a le public, quoi. Le public, lui, il va réagir sur les sites internet, il va réagir sur les salons, parce que moi, je fais beaucoup de salons. Et là, ça dépend vraiment des romans. Il y a des romans qui plaisent à tous les publics, il y a des romans qui plaisent à certains publics uniquement. Et il faut savoir faire la différence. Mais généralement, maintenant, ça me touche pas particulièrement. C'est-à-dire que je reconnais à chacun le droit d'aimer ou de ne pas aimer sans que ça soit... Je le prends pas personnellement, quoi.
Vous écrivez des polars, des thrillers. Qu'est-ce qui vous attire dans ce genre? Où puisez-vous votre inspiration?
Ce qui m'attire, c'est que c'est un genre qui est assez ouvert. On peut raconter des polars et des thrillers dans toutes les époques, hein, thrillers historiques. On peut raconter toutes les histoires qu'on veut. Donc, en fait, c'est un genre qui est très ouvert. Il y a des genres qui sont beaucoup moins ouverts que le polar et le thriller. Là, peut-être, je me sentirais un peu à l'étroit pour raconter mes histoires. Donc, ça, c'est le premier point. Après, d'où je tire mes inspirations? Alors, j'ai envie de dire de tout, à commencer par le quotidien, ce qui se passe dans le monde, les infos, etc., mais aussi les films que je vois ou les séries que je vois, les livres que je peux lire, les jeux de rôle, puisque je suis un grand pratiquant de jeux de rôle, que je fais jouer ou que j'imagine, les gens qui me racontent des histoires, ils me racontent l'histoire de leurs cousins, de leurs cousines, de leur père, de leur mère. En fait, il faut être assez curieux quand tu es écrivain, parce que c'est un peu comme un vampire, si tu veux. Tu prends du matériel chez les autres, et puis après, toi, t'en fais des histoires. Eux, ils en font rien, ils te racontent un truc parce que ça leur est arrivé. Moi, je le mets dans un coin de ma tête, et un jour, ça ressort sous forme de livre. Je règle aussi beaucoup mes comptes dans mes livres. Il y a des gens, par exemple, que je vais moins aimer dans la vie, plutôt que d'aller les voir et de leur dire... Ça peut m'arriver de le faire aussi, mais plutôt que de le faire, je peux très bien en faire un personnage dans mes romans et régler mes comptes dans mes romans. Ça m'arrive assez souvent, d'ailleurs.
En plus d'écrire des romans, vous êtes aussi très actif dans le monde du jeu de rôle. Qu'est-ce qui vous procure le plus de frissons? Finir la rédaction d'un roman ou co-écrire une histoire avec vos joueurs et les voir évoluer dans cet univers imaginaire?
Alors, les jeux de rôle, c'est très différent de la littérature, parce que les romans, tout ça, t'es tout seul, hein, donc tu maîtrises tes personnages, tu maîtrises tes histoires, etc. Dans un jeu de rôle, en fait, t'as un gars, donc le maître de jeu, qui est là pour animer la table et qui sait à peu près ce qui se passe ou ce qui pourrait se passer, et qui a réponse à toutes les questions possibles. Et puis après, t'as surtout des joueurs, hein, qui doivent être actifs et qui créent l'histoire en fonction de ce qu'ils sont chacun, de leurs désirs, tout ça. Donc, c'est très, très différent. Et c'est vrai que c'est un plaisir de voir qu'on peut raconter des histoires à plusieurs comme ça. C'est des plaisirs qui sont très différents, mais qui se nourrissent l'un l'autre. Parce que dans les jeux de rôle, j'apprends des choses sur la réaction des gens. Et je peux utiliser ce que j'apprends dans l'écriture de mes romans après. Moi, j'utilise beaucoup de fausses pistes pour que les joueurs aient toujours quelque chose à faire. Et je vois les mécanismes par lesquels il suffit parfois de dire deux, trois trucs pour que tout un groupe de personnes soit persuadé de quelque chose et parte dans le panneau direct. Et ça, en fait, je l'utilise beaucoup dans mes romans. C'est-à-dire que dans mes romans, je sais que mes lecteurs, ils cherchent à comprendre ce qui se passe et à comprendre le mystère. Et moi, tout mon savoir-faire, c'est de les trimballer n'importe où et qu'à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, ils n'ont rien compris parce qu'ils sont allés de fausse piste en fausse piste. Donc, j'apprends aussi, par les jeux de rôle, à raconter des histoires.
Avez-vous un projet en cours dont vous aimeriez nous parler? Un nouveau roman, une campagne pour un jeu de rôle, une adaptation cinématographique?
Alors, j'ai plein de projets en cours. Je fais plein de choses. L'année prochaine, je vais sortir 4 albums de bande dessinée. J'ai toujours un roman que j'écris, mon prochain roman. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que donc là, moi, j'ai beaucoup travaillé dans l'audiovisuel, puisque j'ai fait une série qui s'appelle Alex Hugo là, pour France 2. Mais j'ai un peu quitté l'audiovisuel pour aller vers le cinéma. Et maintenant, je travaille avec ma femme, qui est scénariste aussi. Et on a écrit ensemble un film qu'elle doit réaliser là, à la fin de l'année, qui s'appelle Las Vegas, qui est une espèce de thriller, à la fois comédie et thriller, qui se passe donc aux États-Unis. À Las Vegas et dans le désert du Nevada. Et c'est un peu mon projet de fin d'année que j'aime beaucoup parce que ça va être une autre aventure. Il va y avoir un tournage. Ça va être autre chose que d'écrire un roman ou d'écrire des histoires. Ça va me forcer un peu à bouger. Donc voilà, c'est le projet un peu actuel.
J'ai vu des affiches pour votre dernier livre. Voir son visage dans les transports en commun, ça fait quel effet ?
Au début, ça surprend, c'est un peu gênant aussi parce que Là, en plus, cette année, il y a eu vraiment beaucoup d'affiches un peu partout en France, mais aussi à Paris, dans le métro, tout ça. Et il se trouve que moi, j'habite donc à Montreuil et que je prends le métro quasiment tous les jours. Et j'ai une énorme affiche qui restait 15 jours dans l'escalier. Je passais quasiment tous les jours devant. Donc, à un moment, c'est un peu gênant. Mais en fait, tu te rends compte assez vite que les gens, si tu veux, il m'est arrivé, en fait, pour une émission télé, de poser devant mon affiche dans le métro pendant que les journalistes me filmaient avec une caméra. Et donc, il y avait ma tête en énorme, moi à côté, et le journaliste avec la caméra, et plein de gens qui passaient dans le métro. Et ils s'arrêtaient, ils me regardaient, et en fait, je voyais dans leurs yeux qu'ils ne faisaient pas le lien entre l'affiche et moi, quoi. Comme s'ils ne me reconnaissaient pas. Donc, je me suis dit, en fait, ce n'est pas gagné, hein, parce que même si tu as une affiche de toi énorme partout, tu passes dans la rue, les gens, tu es à côté de l'affiche, de toute manière, ils ne te reconnaissent pas, même si tu es à côté de l'affiche. Donc, si tu veux, ce n'est pas du tout... un truc narcissique ou un truc où tu te dis ça y est, je suis sur une affiche, tout le monde va me faire signer les autographes. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe. Mais voilà, c'est toujours plaisant de voir que tu as suffisamment d'importance dans le milieu pour que un éditeur mette ta tête sur des bus ou dans le métro. Mais voilà, ça fait partie du marketing d'un livre, c'est-à-dire que les livres, on les écrit, mais il faut les vendre aussi. Et pour les vendre, ça fait partie du système qu'on met en place pour essayer de vendre des livres.
Beaucoup rêvent de vivre de leur plume. Est-ce difficile de se faire connaître et de pouvoir vivre pleinement de l'écriture ?
Je ne vais pas mentir, ce n'est pas facile. Pas facile parce que d'abord, il faut y croire. Donc, comme tu l'as dit, hein, beaucoup rêvent de vivre de leur plume. Donc, c'est-à-dire que pour beaucoup de gens, pendant très longtemps, c'est un rêve. Et comme tous les rêves, déjà, il faut le courage, en fait, d'une certaine manière, de laisser tomber un truc qui pourrait très bien te faire gagner de l'argent pour aller vers ce rêve. Donc déjà, ça, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde. Écrire un livre, c'est rien par rapport au fait de se donner la capacité de le faire et de se dire « ça y est, j'écris un livre ». Une fois que tu as commencé, en fait, le livre, il s'écrit. Hein. Par contre, une fois que tu l'as écrit, bon, bah, tout le monde n'a pas les mêmes capacités de raconter des histoires sous forme littéraire. Et là, commence... l'étape qui est aussi très difficile, qui est de trouver un éditeur. Alors, c'est moins difficile qu'on ne le croit, très sincèrement, parce que les éditeurs recherchent des nouveaux auteurs tout le temps. Ils lisent les manuscrits qu'on leur envoie. Il faut l'envoyer, en fait, tout simplement, à l'éditeur. Et généralement, ils lisent les manuscrits. Donc, après, c'est vraiment la qualité de ce qui est écrit. Est-ce que c'est en adéquation avec son temps? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est efficace? Pour quel public c'est? Il ne faut pas se tromper aussi. Si tu écris un livre de science-fiction, tu ne l'envoies pas à un éditeur de littérature blanche qui fait des essais. Ça, il ne faut pas se tromper d'éditeur. Il y a un éditeur pour chaque type de littérature. Moi, par exemple, j'écris des polars et des thrillers. Je suis chez Kallmann parce qu'il y a une collection Kallmann Noir qui publie des polars et des thrillers. S'il n'y avait pas de collection polars et thrillers, ils ne m'auraient jamais pris, en fait. Donc, déjà, il faut pas se tromper d'éditeur. Il faut envoyer son texte. Et puis après, une fois qu'on est publié, bah, on rentre dans le marché. Le marché du livre, il n'est pas facile. Il faut vendre beaucoup de livres pour vraiment bien gagner sa vie et pouvoir en vivre. Et sans mentir, il y a 95% des auteurs qui ne vivent pas de leur livre, même s'ils sont publiés. Donc, ils sont obligés d'avoir un autre métier et d'écrire leur livre le soir, le matin. Mais voilà, c'est un rêve, encore une fois, donc il faut y croire. Il faut y croire, et pour certains, ça marche. Moi, j'ai eu de la chance, ça a marché pour moi. Ça a marché pour plein d'autres, mais la majorité, c'est difficile. Et c'est une voie où, par exemple, il ne faut pas compter dessus pour en vivre pendant un certain temps, parce que même si ça marche, ça met quand même un certain temps avant d'avoir un public, avant de... Bah, d'écrire, il faut pouvoir écrire son livre aussi, ça prend du temps. Voilà, quand tu te lances dedans, il faut vraiment avoir une grande passion de ça, il faut vraiment avoir une grande motivation, comme tous les métiers, un peu de passion, et se dire que ça prendra du temps et que si tu as des refus, tout ça, il faut continuer. On va donner l'exemple de Stephen King, qui est un auteur américain que j'adore et qui est un des plus gros auteurs à succès américains. Et bah, il a galéré pendant des années avant que quelqu'un prenne son manuscrit. Il habitait dans une caravane avec sa femme et son premier enfant. Et, Et un jour, on lui a pris son manuscrit et il est devenu pas du jour au lendemain, ça a pris quelques livres quand même, mais en tout cas, il a tout de suite commencé à fonctionner. Donc en fait, ça peut arriver, ça peut marcher, quoi. Mais il faut y croire, quoi. Il faut vraiment y croire.
Quels sont, selon vous, les principaux avantages et inconvénients du métier d'écrivain ?
Principal avantage, c'est la liberté. Quand tu es écrivain, tu gères ton planning comme tu veux, tu es chez toi, en fait. Donc, c'est un métier dans lequel tu es très libre, il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de patron, à part ton éditeur une fois par an quand tu lui rends ton manuscrit. Mais sinon, tu es assez libre. Et principal défaut, c'est aussi la liberté, c'est le même. Parce qu'en fait, être libre, être chez soi et s'organiser pour travailler, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. C'est-à-dire que quand tu vas dans un boulot, moi je l'ai fait hein, avant d'être écrivain, donc quand tu es salarié et que tu as un patron, bah, tu sais que tu dois être là à 8h ou à 9h, tu sais ce que tu dois faire et puis tu sais qu'à 18h ou à 17h ou à 19h, c'est terminé. Alors que quand tu es écrivain, c'est tout le temps. Tu es tout le temps en train de penser à ton roman. Et il faut que tu te mettes au boulot tous les jours sans patron et sans horaire. C'est-à-dire que forcément, quand tu es à la maison, bah, tu as plein d'autres trucs à faire que de travailler, hein, puisque tu es à la maison. Donc en fait, tu peux te retrouver au téléphone, devant une série, avec ton voisin qui vient pour prendre un café, avec ci, avec ça. Sauf que toi, à un moment, il faut que tu te poses et que tu travailles, parce que sinon, ton bouquin, il n'avance pas. Et si le bouquin n'avance pas, bah, ton salaire, il ne rentrera pas au moment où il devra rentrer. Donc, je dirais que c'est ce qui est dur, c'est à la fois ce qui est super, c'est la liberté, mais ce qui est dur, c'est aussi la liberté. C'est qu'il faut il faut être capable en fait de s'organiser vraiment bien pour avoir cette vie-là, quoi.
Enfin, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêve de devenir écrivain ?
Bah déjà, le conseil de base hein, que je donnerais, qui est le même que Stephen King peut donner ou que un autre écrivain qui s'appelle Frank Tillier m'a donné il y a quelques années quand je lui ai dit que j'avais envie de faire ça, c'est de trouver dans sa journée, minimum je dirais une demi-heure, pour écrire quelque chose, son projet d'histoire, quoi. Il faut avoir un projet d'histoire. Et il faut poser ses fesses sur une chaise face à son ordinateur et écrire au moins une demi-heure par jour. Pas plus. Ça ressemble beaucoup au sport, à l'écriture. Si tu veux devenir sportif, si tu veux avoir des résultats, tu es obligé d'en faire quand même un petit peu très souvent, quoi. Si tu fais du sport une fois par semaine, c'est cool, mais tu ne seras jamais super fort dans ton sport. Bah, l'écrivain, c'est quelqu'un qui travaille un muscle, hein, qui est son écriture, en fait. Et pour ça, il faut travailler un peu tous les jours. Mais tu n'as pas besoin de passer tes journées à faire ça. Tu peux le faire un tout petit peu, en fait. Et en fait, le deuxième conseil que je donnerais, c'est que quand tu arrives à faire ça, bah, tu commences à poser 5 lignes, 3 lignes, 20 lignes, 3 pages. Le lendemain, bah, tu continues ton histoire sans relire ce que tu as fait la veille. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens qui essaient d'écrire, eh ben, ils écrivent un truc le lundi, le mardi, ils relisent, ils mettent à la poubelle, le mercredi, ils écrivent à nouveau le chapitre 1, le jeudi, ils le remettent à la poubelle, et en fait, ils n'avancent pas, et ils sont vite découragés parce qu'ils se disent qu'ils n'avancent pas. Alors qu'en fait, ce qui est génial dans l'écriture, c'est que là, aujourd'hui, si tu commences à écrire un livre aujourd'hui et que tu mets une page, bah, tu sais que là, en septembre, t'auras un livre, en fait. Sauf si tu as jeté les pages tous les jours, quoi. Mais si tu avances tous les jours, en septembre, tu auras un livre. Est-ce qu'il sera bon, est-ce qu'il sera mauvais ? J'en sais rien. Il faudra sans doute que tu retravailles dessus après. Mais en tout cas, une fois que tu as écrit ton premier livre, tu sais que tu peux le faire et après, ça change tout. Donc en fait, voilà, mon conseil, c'est vraiment sanctuariser une demi-heure, une heure dans sa journée. Ça peut être à n'importe quelle heure. Moi, mon premier livre, je l'ai écrit entre 6 et 7. J'avais des enfants qui avaient un an. Donc moi, j'ai des jumeaux. Hein, donc à un an, ils se réveillaient super tôt. Et entre 6 et 7, moi, j'écrivais une heure. Et mon premier livre, Quelque part avant l'enfer, je l'ai écrit entre 6 et 7 en 6 mois, une heure par jour.
Merci beaucoup, Nico Takian, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On espère que votre nouveau roman, La Menace, rencontrera un grand succès. Bonne continuation dans votre travail artistique.
Et merci à vous, c'était très sympa.
C'était Nico Takian, écrivain au micro de Wayne. Entre romans et jeux de rôle, son imagination semble sans limite.
Et justement, L'imagination, c'est aussi le moteur d'un autre univers artistique, le cinéma.
Oui, après les mots et les livres, place aux images et aux films.
Écrire une histoire, c'est une chose. Mais lui donner vie sur grand écran, c'est encore un autre défi. Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir Marina Golenko et Tito Amoni, réalisateurs et producteurs qui vont nous révéler les coulisses du 7e art. Une interview réalisée par Mathieu. L'interview.
Sur Radio Madu.
Vous êtes avec Mathieu. Pour poursuivre nos interviews sur les métiers liés aux arts et de l'imaginaire, nous recevons Marina Golenko et Tito Amoni, réalisateurs, producteurs et acteurs. Bonjour.
Bonjour. Et bonjour.
Marina, vous avez toujours été passionnée par le théâtre, le cinéma. Qu'est-ce qui vous a convaincu de franchir le cap et transformer cette passion en votre métier ?
Eh bien, après mes études, après le lycée et donc le bac, j'ai voulu partir pour faire l'école d'infirmière et j'ai été prise nulle part. Mon dossier n'était pas retenu. Quand on a des refus comme ça, c'est là où on se dit qu'est-ce qu'on veut faire vraiment, vraiment. Et c'est là où, du coup, c'est un refus qui m'a porté à partir dans cette voie.
Tito, votre parcours est plutôt atypique. Vous avez d'abord suivi des études en STAPS avant de devenir cascadeur. Puis vous avez monté votre propre boîte de production et commencé à réaliser des films. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a amené à cette évolution ?
Moi, j'ai toujours été passionné par les films, surtout les films d'action, depuis tout petit, en vrai de vrai. Hein, je regardais beaucoup de films historiques, de films d'action, tout ça. Et donc, effectivement, je suis parti après mes études au lycée, après le bac, je suis parti en STAPS pour essayer d'être préparateur physique. J'ai eu mon diplôme, d'ailleurs, donc j'ai aussi le diplôme de préparateur physique, sauf que ce que je faisais en parallèle, c'est que j'étais dans une troupe de théâtre à Clermont-Ferrand. D'ailleurs, au collège ici, j'étais également à l'atelier théâtre aussi. J'avais commencé le théâtre à Marthe-du-Perron et j'avais arrêté pendant le lycée. Puis j'ai repris en parallèle de mes études à Clermont-Ferrand. Et en fait, j'aimais beaucoup ça. Et j'ai également, de base, je voulais lier le cinéma et le sport. Et pour lier le cinéma et le sport, je me suis dit, c'est cascadeur, du coup, en fait, le lien parfait. Donc, j'adorais donc les films d'action. Donc, je suis parti dans l'idée de devenir cascadeur. Donc, du coup, j'ai fait une formation au Campus Univers Cascade. C'est une école de cascade dans le nord de la France que je pouvais cumuler avec STAPS parce que c'était des sessions, c'était des stages. Et donc, dans l'objectif d'être cascadeur. Donc, j'ai fait quelques cascades dans plusieurs films, tout ça. Et en fait, après, je me suis dit, mais j'aime aussi faire la comédie. Donc c'est là que je suis parti au cours Florent où j'ai rencontré Marina et pour également avoir une passerelle de comédien en plus de cascadeur. Et après avec Marina en faisant plusieurs petits films, on s'est dit mais on aime bien aussi réaliser, on aimerait nous-mêmes se donner des rôles pour pouvoir choisir aussi ce qu'on veut faire, un peu réaliser nos rêves aussi de comédien puis nos rêves de gamin. Donc on s'est dit on va créer notre société de production, mais on n'avait aucune notion de comment faire quoi. Donc voilà, on s'est lancé comme ça.
Vous avez monté votre propre société de production. C'est un gros défi. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision ?
À la base, on voulait donc jouer, être juste comédien ou moi également cascadeur, mais au final comédien. Et en fait, on s'est dit qu'en sortant de l'école, on n'allait pas avoir forcément de rôle ou pas les rôles qu'on voulait, que ça allait être compliqué, parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui galèrent à trouver. Ils passent casting sur casting. Des fois, ils arrivent à dégoter un petit rôle qui vite fait un rôle parlant. C'est un serveur ou moi, ça aurait peut-être été un videur ou je sais pas. Et nous, on s'est dit, nous, on veut jouer. En fait, ça part un peu tout con hein, du rêve un peu de jouer au chevalier et à la princesse de quand on est vraiment enfant, quoi. Et on s'est dit, mais ça, on risque de jamais nous le proposer. Donc, pour avoir le plus de chances d'être embauché, c'est de s'embaucher soi-même. Donc, du coup, on s'est dit, on va nous-mêmes être les réalisateurs de ce film. Comme ça, on pourra nous-mêmes se caster. Et donc, c'est venu de là. Mais tout naïvement, parce qu'on ne savait pas, encore une fois, comment produire un film, comment le commercialiser, comment monter une équipe, tout ça. Donc, on a dû apprendre sur le tas. Et c'est un peu naïvement qu'on arrivait à cette idée-là.
Travailler ensemble en tant que réalisateur, producteur et parfois même acteur, est-ce une force ou un défi au quotidien ? Comment gérez-vous cette collaboration à la fois professionnelle et personnelle ?
C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que c'est pas facile. Nous, on est encore jeunes et notre société de production, on est encore que tous les deux. Après, sur le tournage, on a su s'entourer d'une équipe. Donc, pendant que nous, on était acteurs et qu'on était en train de jouer, on avait nos assistants réalisateurs, du coup, qui prenaient le relais.
Quoi. On a travaillé réellement qu'à deux avant le tournage. Et là, dans la commercialisation du film, pendant le tournage, mais enfin, en soi, le projet a pris 3 ans. Ouais. Le tournage a duré que 23 jours. Donc, pendant 23 jours, on était avec des assistants réals, des techniciens, il y avait beaucoup de monde. Après, il y a eu le montage, on avait quelques monteurs, mais pendant les 2 années et demie autour, effectivement, on était que tous les deux. Et à la fois, c'est une force parce qu'on se motive, on se convainc qu'on va y arriver, on se répartit les tâches, ça permet de délester un peu du poids, même si 2, c'est très, très faible pour organiser un tournage, gérer les mails des figurants, tout ça. Donc ça a été une force, et puis de temps en temps, c'était prise de bec, mais ça, c'est normal, c'est logique. Donc voilà.
Passons maintenant à votre métier de réalisateur. Concrètement, quelles sont les grandes étapes du processus de création d'un film ?
La toute première étape, c'est écrire le scénario. Donc forcément, imaginer l'histoire, imaginer les personnages, imaginer les rebondissements, imaginer les intrigues. Deuxième étape, trouver les financements. Il faut payer les costumes, faut rémunérer les salaires de tout le monde, la nourriture, le logement, enfin tout le tralala.
Et puis après, comme tu dis, il y a monter une équipe, donc faire appel à des techniciens, bloquer des dates, trouver des lieux de tournage, faire un planning de tournage.
Tout organiser le tournage.
Voilà, faire appel à des figurants, faire un casting, contractualiser tout, parce qu'il faut avoir des contrats pour les lieux de tournage, des contrats pour les techniciens, pour les figurants, trouver, comme tu disais, des costumes, où manger, où dormir. Donc il y a toute une grosse organisation avant tout ça.
Ensuite, c'est le tournage en
prenant en compte qu'on a trouvé les financements, donc c'est
tout,
en gros,
voilà,
la troisième étape. Ensuite il y a le tournage, une fois qu'on a bien calé tout ça, l'équipe est disponible.
Ensuite, tu as le montage après le tournage.
Toute la post-production.
Il faut monter le film, les images, le son, la
composition musicale.
Ouais.
Voilà, ce genre de choses-là. Et ensuite, après, il y a travailler avec un distributeur ou un diffuseur. Donc, le distributeur, c'est celui qui fait la passerelle entre le producteur et les salles de cinéma ou les plateformes de streaming ou les chaînes télé. Et ce distributeur-là va gérer les ventes et va gérer le démarrage au cinéma. Et après, il y a toute la promotion, c'est ça que je cherchais comme mot.
Voilà,
donc
ouais,
la pub, en gros, sur la sortie du film. Et puis ensuite, il y a l'après, il y a les sorties DVD. Il faut refaire une pub aussi là-dessus. Il y a beaucoup d'étapes.
Y a-t-il une étape que vous aimez particulièrement et une que vous trouvez plus compliquée ?
Là, je pense qu'on va être d'accord. La meilleure étape, c'est le tournage.
Oui.
Et je pense que la partie la plus compliquée, c'est trouver des financements.
C'est surtout la moins sexy, hein. C'est trouver les financements, c'est le moins rigolo que nous, à titre perso, en tout cas, c'est là où on prend le moins de plaisir parce que l'aspect artistique et création est un peu mis de côté. On est plus dans l'aspect négociation, essayer de convaincre. C'est toujours le moins enrichissant, mais c'est le plus important, c'est le nerf de la guerre. Mais après, voilà, le plus intéressant, ça reste dans le tournage. Et moi, j'aime bien aussi la sortie du film au cinéma.
La sortie du film. On découvre
les avant-premières,
le film,
ouais. Tout ça. Montrer aussi aux gens, c'est chouette.
Parlons maintenant d'Arland, votre dernier projet. Vous avez choisi de tourner en Haute-Loire dans un décor historique. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette histoire ?
Alors, c'est vrai que Titouan, lui, il habite en Haute-Loire depuis toujours, moi non. Et il m'a fait visiter le château d'Arland, pour le visiter comme ça, sans arrière-pensée. Et une fois qu'on est arrivé sur les lieux, moi, j'ai eu un gros, gros coup de cœur sur ce château d'Arland. Je l'ai trouvé magnifique, très inspirant. Et en bas du château, il y a un petit panneau explicatif qui raconte son histoire et le comment du pourquoi, tout ça. Et on s'est dit, ah oui, d'accord, il y a un bon début de scénario sympa à développer autour de ce château. Donc, la machine s'est lancée un peu comme ça aussi.
C'est ça. Et puis moi, effectivement, je connaissais très bien le lieu. Et parce que depuis tout petit, j'ai grandi à côté. Donc,
tu joues au chevalier dedans.
Voilà, avec Hugo. Mon frère jumeau, donc, qui travaille au son et qui était au collège ici, d'ailleurs, aussi. Et donc, c'est un lieu que je connaissais très bien et forcément, ça fait remonter des souvenirs et puis le lieu est incroyable. Donc, quand on est à Arland, on a tout de suite plein d'idées en tête. Voilà. Si jamais vous y allez, vous verrez. Vous aurez envie de raconter des trucs.
Le film a déjà reçu plusieurs prix. Que représentent ces récompenses pour vous ?
Donc nous, ça représente beaucoup. C'est aussi une mise en avant du travail de nos techniciens et de tout le monde sur le tournage, alors qu'on avait de grosses contraintes budgétaires et en termes de timing qui étaient très serrées. Donc c'est un peu, c'est un peu une reconnaissance qui fait du bien. Ouais.
On entend souvent dire que le métier du cinéma est assez fermé. A-t-il été difficile de vous faire une place dans ce monde ? Le succès rencontré par Harland vous permet-il d'envisager un avenir plus facile ?
Alors oui, c'est vrai. C'est vrai, le milieu du cinéma, c'est pas que c'est fermé, c'est que c'est compliqué de taper aux bonnes portes, de trouver les bonnes personnes.
Ils sont bien entre eux, quoi.
Voilà.
Pas besoin de monde. Hein.
En fait, ils font déjà des films entre eux, ils se font jouer entre eux aussi. Et en fait, ramener quelqu'un de nouveau...
En fait, ils n'ont pas besoin de nous et nous, on a besoin d'eux. C'est ça qui est paradoxal. C'est que le cinéma, il existe déjà. Et donc, les nouveaux créateurs, souvent, ont des difficultés à se faire entendre. Et donc, oui, c'est compliqué. C'est pour ça qu'Arland, on l'a financé seul au final et qu'on s'est lancé seul. Et au final, ça nous permet d'avoir une crédibilité parce qu'en plus, on a réussi à avoir un distributeur. Et là, cette fois, on a un film qui est sorti au cinéma officiellement. On a une page hallucinée. On est un peu officiel, on va dire. Parce que ça nous permet aussi d'obtenir plus facilement des aides, des coproductions, des techniciens, des gens qui sont prêts à travailler avec nous. Parce qu'on a déjà sorti un film. Donc, ça montre aussi qu'on va au bout des projets.
Justement, vous avez préparé, je crois, un nouveau projet de film, toujours en Haute-Loire. Cette fois autour de la légende de la bête du Gévaudan. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, en Haute-Loire, mais aussi en Lozère, du coup. Ouais. On va tourner sur les deux départements, même un peu l'Ardèche. Donc, on va tourner sur l'Ardèche, la Lozère et la Haute-Loire, sur les trois départements. Et donc, c'est un long métrage. Le scénario est bouclé. Ça fait un peu plus d'un an qu'il était écrit par Teva Albert. Donc, c'est lui qui a écrit le scénario en travaillant avec nous, mais c'est lui qui l'a fait.
Chaque semaine, il nous envoyait des nouvelles pages. On checkait ensemble, tout ça.
Et là, on est dans les financements.
Voilà, on est en plein dans le truc qu'on aime le moins, mais ça avance bien.
Mais ça avance pas du tout pareil que pour Harland. On voit justement, pour revenir à la question d'avant, on voit la vraie différence maintenant qu'on a sorti un film. On nous écoute beaucoup plus, on nous répond et on communique et on intéresse beaucoup plus les gens. En plus, le sujet de la bête du Gévaudan, c'est à la fois local, mais c'est national, c'est connu partout. C'est un sujet que les gens connaissent. Donc forcément, ça attire aussi des financiers, des producteurs... Et donc voilà, on est en plein dans les financements là, on espère tourner dans un an.
Pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui rêve de travailler dans le monde du cinéma ?
Alors,
ça dépend ce qu'il veut.
Ouais, ça dépend ce qu'il veut faire.
Qu'il veut faire,
s'il veut être acteur, s'il veut être technicien. Parce qu'en vrai, il y a plein de métiers. Et d'ailleurs, on le sait pas toujours.
Ouais. Ce qu'il faut faire, je pense que ça dépend. Quelqu'un qui veut être comédien, il y a déjà se mettre dans une troupe de théâtre, faire des projets. Faire un maximum de projets, même en tant que figurant. Ça permet surtout les rencontres. Ça permet de s'habituer au lieu de tournage, tout ça.
Ouais.
Ça permet de voir si on aime bien, si on est à l'aise sur un plateau de tournage aussi, parce que un comédien passe beaucoup de temps à attendre sur un tournage et il y a des gens qui se rendent compte qu'ils aiment pas attendre. Faire plein de trucs, faire des petits projets. En soi, un film, tout le monde peut en faire un. À partir du moment où on a un téléphone, donc même des petits projets YouTube. Des amis à soi et puis essayer d'augmenter petit à petit le niveau, avoir un collègue qui a un micro, faire une histoire un peu plus élaborée. Moi, je pense que c'est vraiment être actif,
être
vraiment actif. Quoi.
Merci beaucoup, Marina Golenko et Tito Mounier, d'avoir partagé votre expérience avec nous. On vous souhaite plein de succès pour vos futurs projets.
Merci à vous.
C'était Marina Golenko et Tito Amonier, producteurs, réalisateurs, cinéastes, au micro de Mathieu. Et bien voilà, notre émission touche à sa fin.
Et avec elle, c'est aussi la fin de cette belle aventure à la découverte des métiers artistiques.
Oh non, c'est fini ?
Oui, mais on en ressort avec plein d'enseignements. Au fil de ces trois émissions, nous avons découvert des artistes passionnés, des créateurs qui vivent de leur imagination et des techniciens qui travaillent dans l'ombre pour donner vie au spectacle et aux œuvres.
Que ce soit à travers la peinture, le théâtre, la musique, le cinéma ou la littérature, tous ces métiers demandent du travail, de la persévérance et surtout une passion débordante.
Et souvent, ce n'est pas facile.
C'est vrai. On a entendu que certains métiers sont compliqués à concilier avec la vie de famille. Que le statut d'intermittent est indispensable, mais pas toujours simple. et que de se faire connaître demande du temps et de la patience.
Malgré tout, ce que l'on retient, c'est que tous nos invités ont en commun une même motivation, le plaisir de créer, de partager et de transmettre des émotions.
Alors, si vous rêvez d'un métier artistique, retenez bien leurs conseils. Soyez curieux, persévérez et osez vous lancer.
Et surtout, continuez à rêver.
Un grand merci à tous nos invités et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette série.
Si vous avez manqué une émission, pas de panique, elles sont toutes disponibles en podcast sur le site de notre radio partenaire.
Oui, allez les écouter.
Sur ce, on vous dit à bientôt. Et surtout, continuez à cultiver votre imagination. On se quitte avec une chanson de Grand Corps Malade qui s'intitule « À chacun sa bohème ».
Je vous parle d'un temps. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Saint-Denis en ce temps-là était mon seul décor et mon terrain de fête. Une terrasse de café, deux, trois poteaux qui passent et le plan s'éternise. Et le clocher de la mairie qui à 18h chante le temps des cerises. Je vous parle d'un temps que j'ai connu un temps comme une belle escale. On avait 1000 projets qu'on fantasmait devant une omelette frite à 4 balles. On avait des idées et on refaisait le monde au pied des bâtiments. Le monde a dû nous voir, il nous a offert l'espoir, c'est un bon commencement.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire, on est heureux. La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Souvent il m'arrivait devant mon cahier de passer des nuits blanches, noircissant toutes ces pages avec excitation presque comme une revanche. Scander des poésies, quelle jolie fantaisie face à des presque frères. Sans enjeu précis, se sentir bien en vie et gagner quelques bières. L'inspiration était partout, je pouvais souvent la voir déborder. De notre innocence, de notre nonchalance, de notre vie débridée. On a laissé une trace en hurlant nos histoires à la gueule du monde. Je vous parle d'un temps dont je ne changerai pas une seule seconde.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire, on est heureux. La bohème.
Je vous parle d'un temps.
La bohème.
Je vous parle d'un temps.
Ça voulait dire
la nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème. Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je reconnais les rues, mais l'esprit n'y est plus. Moins d'envie, moins de promesses. Reste alors le souvenir qui me donne le sourire et ce pincement extrême. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.